dit souvent que les murs ont des oreilles.
Là-haut sur la colline.
Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
Chronique constitutionnelle avec notre invité et notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, Patrick Taillon. Bonjour Patrick.
Bonjour Antoine.
Alors, on sait que toi, tu vois de la Constitution partout. Est-ce que tu en vois dans le dossier de l'itinérance? On sait que c'est un dossier qui fait beaucoup parler actuellement, puis qui est lié aussi, évidemment, à la crise du logement. Et là, on est vendredi au moment où on enregistre, et Pierre Poilievre a fait toute une déclaration là, traitant les maires de Québec et de Montréal d'incompétents en matière de logement. Mais donc, tu veux aujourd'hui nous faire ressortir l'aspect constitutionnel du dossier de l'itinérance. C'est quand même hardi.
Il y a de la constitution partout, Antoine. Et c'est pas toujours pour le mieux. C'est un constitutionnaliste qui le dit.
Ah oui.
C'est souvent bien intentionné, mais ça complique les choses. Puis il faut qu'on parle d'itinérance parce que le problème prend beaucoup d'ampleur. Hein. La semaine dernière, je tournais la chronique avec toi à partir de Gatineau.
Oui.
Je passais ensuite devant le petit ruisseau près de l'aréna Robert Guertin, là. C'est impressionnant, Antoine, le nombre de campements. Là, j'avais lu ça dans les journaux, évidemment, mais le voir, là, je le croyais pas. C'est vraiment très impressionnant. Puis c'est ça, la Constitution s'invite dans ce débat-là sous deux angles. Il y a évidemment celui du fédéralisme. On est dans une gouvernance multiniveau. Donc, c'est à qui de décider et d'avoir aussi la capacité financière de construire des refuges, de développer du logement social. Est-ce qu'il faut faire ça à Ottawa en regardant les politiciens québécois de haut, en méprisant nos maires, ou il faut au contraire respecter ce qu'on appelle, c'est technique, la subsidiarité, c'est-à-dire prendre les
décisions. Qu'est-ce que c'est?
Ben, c'est l'idée que le pouvoir devrait être exercé au niveau où c'est le plus pertinent, et donc prendre les décisions autant que possible le plus proche du monde.
Ouais.
Pourquoi l'argent en matière de logement social fait un long détour par Ottawa pour ensuite revenir à Québec, pour éventuellement revenir dans les villes?
Mm.
C'est là qu'on voit que sous l'angle du fédéralisme, ben, la constitution dans le débat sur le logement social, la construction de refuges et toute la question du logement en général, elle
parce
ne
que
fait
qu'ajouter de la... Pour le dire simplement, Patrick, quand on parle de constitution et de fédéralisme, c'est que la constitution dit qui fait quoi, quel gouvernement fait quoi. Est-ce que c'est la province, un mot qu'on aime pas tellement, toi et moi, ou Ottawa, hein? C'est ça. Donc, l'itinérance, c'est pas clair, là, qui est maître d'œuvre là-dedans? Qui doit agir?
En fait, c'est toujours le même problème, Antoine. C'est que c'est très, très clair que les affaires sociales, ça relève du local, donc du Québec, puis Québec et ses villes. Mais le problème, c'est que la question de la dépense publique, elle, c'est le Far West. Sur la dépense publique, tout le monde peut faire n'importe quoi.
C'est
la loi du plus fort. Et le plus fort, c'est souvent Ottawa. Et donc, ce que la Constitution prévoit, les affaires sociales, le logement, c'est local, c'est Québec et c'est les villes, mais c'est complètement bousillé par le fameux pouvoir fédéral de dépenser. Et donc, on a une espèce de système bizarre où l'argent circule, mais il se construit rien. Et surtout, on a sur le plan politique, c'est ça qu'on a eu hier, un formidable exemple de chicane d'incompétence.
Oui.
Ça marche pas. Parce que c'est l'autre qui est incompétent, puis c'est moi, je devrais m'en occuper, mais pas ce bout-là, je peux pas construire moi-même. Moi, je peux pas avoir l'argent, c'est l'autre qui a l'argent.
Chaque palier ça, reproche à l'autre de pas agir, alors qu'il pourrait agir aussi, c'est ça, hein?
Parfois, c'est bon du fédéralisme, parce que c'est bon que des gouvernements surveillent, puis aient pas tout le pouvoir. Mais des fois, c'est très mauvais, parce que ça paralyse, ça rend ça plus complexe. Et sur le dossier du logement, c'est vraiment le cas. Mais l'autre angle, celui qui est moins connu du public, c'est que la Constitution s'invite dans le débat sur le logement en général, mais surtout ici sur sur la question de l'itinérance, sous l'angle des chartes.
Ah,
alors évidemment, la charte canadienne,
ouais.
C'est une charte de liberté individuelle. C'est pas là, en principe, pour couvrir des droits économiques et sociaux, un droit au logement ou quelque chose comme ça. Mais, sous l'angle du droit à la sécurité et à la vie, on commence à voir des décisions qui disent « Attention, les villes, vous pouvez pas faire n'importe quoi avec les campements là qu'on retrouve Il y en a partout dans plusieurs villes. Je parlais tantôt de l'exemple sur le bord du ruisseau et de l'aréna Robert Guertin à Gatineau, mais il y en a d'autres ailleurs partout au Québec de ce genre de campement-là. Et là, on a une jurisprudence de plus en plus abondante. Puis un peu comme dans, on parlait la semaine dernière, le dossier de la liberté d'association, cette jurisprudence qui dit à nos responsables politiques « ça, vous pouvez plus le faire en vertu de la charte », ben ça vient changer les rapports de force, les règles du jeu. Ça vient parfois créer, on appelle ça en anglais un « chilling effect », un effet de dissuasion. C'est-à-dire que l'élu qui se fait dire « tu peux pas faire ça, c'est contraire à tels droits et libertés », ben il est moins tenté d'agir parce qu'il a peur d'être poursuivi.
Ça tétanise. Hein, le « chilling effect », c'est ça, ça tétanise.
Oui. Oui, exactement, c'est bien dit, ça tétanise. Et on se retrouve dans une situation un peu bizarre où, si je résumais en une phrase, là, cette jurisprudence qui, de toute manière, n'est pas encore constante, on pourra y revenir, et ne s'est pas encore rendue en Cour suprême. Mais grosso modo, ça dit aux villes, vous pouvez pas démanteler un campement si vous offrez pas cette place en refuge. Fait, qu'est-ce que ça produit comme effet? Le maire, là, un peu, je veux pas de problème, ben, il y a juste à pas démanteler. Puis il n'y a pas construire de place en refuge. Puis les tribunaux vont le laisser tranquille. Ah. Alors qu'à l'inverse, le maire qui se démène pour essayer de lutter contre l'itinérance, peut-être en développant des refuges, mais aussi en démantelant des campements quand c'est dangereux, quand il y a des risques d'incendie, quand il y a des crimes qui s'y déroulent parfois, parce que c'est quand même pas un havre de paix, là, la vie dans ces camps-là. Là. Et lui, il s'expose à des poursuites, puis il s'expose à être obligé d'être justifié. C'est ça l'effet un peu dissuasif. C'est que si tu fais rien, t'as pas de problème, mais si tu fais de quoi, tu vas aller devant les tribunaux. Et on a eu des exemples au Québec de poursuites dans la dernière année. La dernière, c'est à Saint-Jérôme, en janvier.
Ah oui.
À Saint-Jérôme aussi, il y a beaucoup d'itinérants. J'ai la famille par là, j'ai eu la chance de le constater par moi-même.
Ça s'est retrouvé devant les tribunaux? À Saint-Jérôme?
Exactement. C'est-à-dire que le maire veut essayer d'endiguer les campements à l'extérieur. Il prétend qu'il veut aussi aider avec des places, mais il n'y a pas beaucoup de places en refuge. Et ça s'en va devant le juge. Les organismes qui cherchent à protéger les personnes en situation d'itinérance disent oui. On peut pas démanteler les camps. En s'appuyant sur la jurisprudence canadienne qui se développe un peu partout sur la question. Et là, dans ce cas-là, un peu à ma grande surprise, le juge à Saint-Jérôme, il a botté en touche. Je tranche pas trop sur le fond, je vous donne pas l'injonction parce que l'affaire est pas assez urgente à mon goût. Et son raisonnement est vraiment questionnable. Il dit, l'itinérance, c'est un problème vieux comme le monde. Fait que c'est pas nouveau, donc c'est pas urgent. À peine, Antoine. Fait que je pense pas que la décision à Saint-Jérôme est destinée à faire autorité. Là, comme un petit raisonnement raccourci qui a été pris. Plus sérieusement, il y a eu deux décisions à Montréal. Je les ai lues pour nos auditeurs dans les derniers jours. Décision de Chantal Mas et de l'autre juge, je pense que c'est le juge Nollet. Ça, c'est l'hiver et le printemps dernier, le dossier de l'autoroute 20. Hein, tu t'en rappelles peut-être, on a des constructions, on a un gros chantier de rénovation à la sortie du tunnel Ville-Marie. L'autoroute devient un peu suspendue là sur des piliers. Ouais. Et en dessous de ces piliers de béton, il y a des campements de personnes en situation d'itinérance. Mmh. Et donc, un peu en plein hiver, il y a des travaux préparatoires à faire. Au début, on coexiste là, le chantier de construction avec les itinérants, mais à un moment donné, ça ne va plus et on essaie de procéder au démantèlement. La juge Chantal Mas, ça, Antoine, c'est la même qui, durant la COVID, avait créé une exception pour les personnes en situation d'itinérance. Oui. Donc, quand je dis on a une jurisprudence qui est pas encore stable, ben Chantal Mas, qui nous avait déjà donné un avant-goût.
Elle avait dit que les gens en situation d'itinérance, rappelle-nous, elle avait dit que les gens en situation d'itinérance, ils pouvaient ne pas respecter le couvre-feu. C'est ça.
Donc, durant la COVID, elle avait rendu, à ma connaissance, la seule décision favorable aux droits et libertés et défavorable à l'État dans le dossier COVID. Et elle l'avait fait en faveur des intérêts des personnes en situation d'itinérance. Donc, même juge a produit un peu le même résultat, ça va de soi. Sa sensibilité et à l'endroit de ce dossier-là a réapparu. Et elle a émis une ordonnance pour suspendre temporairement les travaux. Ordonnance qui a encore, en quelque sorte, été quelques mois plus tard défait par un autre de ses collègues, si je me souviens bien, le juge Nollet, qui avec les, c'est toujours ça, hein, c'est toujours le même droit, mais pas tout à fait interprété de la même manière. Et là, lui, il a dit, ben ici, il y a des éléments contextuels importants qui font en sorte qu'il faut aller de l'avant, notamment le fait que, en tout cas, moi, cet argument-là, j'y suis sensible, c'est que l'autoroute 20, là, c'était pas un parc. C'est ben pas oui. Exemple, parce qu'il y a beaucoup de cette jurisprudence-là qui nous vient de la Colombie-Britannique puis de l'Ontario, où la crise du logement est pas mal plus antérieure à la nôtre.
Et plus aiguë, oui.
Et plus aiguë, et elle est en ce moment plus aiguë, puis elle est antérieure à la nôtre. Et souvent, ces décisions-là étaient prises dans des espèces d'espaces publics disponibles au public, comme un parc, par exemple. Et là, effectivement, l'autoroute 20, en dessous d'un viaduc qui doit être rénové, c'est pas vraiment un parc. Et ça, c'était un élément important, je trouve, dans le raisonnement du juge Nollet. Ben, bref, on se retrouve avec une jurisprudence qui, au Québec, a pas encore, je dirais, pris le même élan qu'en Ontario. En Ontario, début 2023, il y a eu une décision à la ville de Waterloo, que j'ai aussi lue pour le bénéfice de nos auditeurs, qui semble être peut-être une belle synthèse de où... le raisonnement le plus empathique à l'endroit de la question de l'itinérance, où on en est là avec ce raisonnement-là. Et grosso modo, c'est le raisonnement que je résumais tout à l'heure. La ville, le Québec ou le Canada est pas obligé de fournir des logements aux gens, mais s'il y a pas assez de place dans les refuges et que les gens font des campements dans un parc... Ben, on peut pas démanteler le campement si on... Et là, on voit dans ces jugements, qui sont probablement les plus avant-gardistes, ils sont peut-être un avant-goût de ce qui pourrait être confirmé éventuellement en Cour suprême, qu'on devient de plus en plus sévère sur qu'est-ce qu'une place disponible dans un refuge. Parce que si je dis j'ai 1000 places dans les refuges, puis j'ai 900 personnes en situation d'itinérance, c'est pour certains, c'est donc réglé, il n'y a pas de problème. Mais pour d'autres, on va dire non. Dans ces places-là, il y en a combien qui acceptent les animaux? Il y en a combien qui acceptent les itinérants qui sont en couple? Il y en a combien qui acceptent les personnes intoxiquées? Il y en a combien qui acceptent les personnes... Parce que c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que la question de l'itinérance, là, ça vient souvent avec d'autres enjeux. Et donc, dans sa version la plus progressiste, cette jurisprudence-là, elle ne fait pas juste regarder combien il y a de place en refuge, mais combien il y a de place en refuge pour les personnes qui ont tel et tel besoin.
Ah, mon Dieu, donc, là, c'est très précis.
On voit qu'il y a un flou interprétatif, là.
Ben oui.
Il y a comme une série de conditions,
alors.
Ben ça, c'est, disons, je te donne là l'interprétation la plus favorable, si je peux dire, au non-démantèlement. Puis à la fin, c'est un problème complexe parce que est-ce vraiment une solution de ne pas démanteler les campements? Ça produit d'autres problèmes. Ce qui se passe dans les campements, parfois ça se passe pas trop mal, mais parfois c'est aussi des lieux où il peut y avoir de la violence, des agressions et tout ça. Et donc, il faut aussi être sensible là, à ces questions-là. À terme, l'itinérance est un problème majeur et qui, à mon avis, prend... qui déborde maintenant sur d'autres facettes. Je lisais un reportage où on indiquait dans un rapport que 22% de la population dans un centre carcéral est une population qui a vécu ou qui va vivre l'itinérance.
22, ah oui.
Donc plus du cinquième de tes détenus en prison dans certains centres, c'est comme un débordement de la question de l'itinérance. Évidemment, c'est toujours multifactoriel, c'est toujours complexe, mais ça dit quelque chose. Et de façon très emblématique, la controverse sur les bibliothèques à Montréal. Quand les bibliothèques sont obligées d'avoir une politique...
Oui, on rappelle là, que c'est l'odeur. Hein? C'est une question d'odeur là, qui a mené à l'expulsion de certaines personnes qu'on imagine être itinérante dans des bibliothèques. Il y a même un règlement qui a été adopté dans un arrondissement, si je ne m'abuse.
Grosso modo, on a adopté comme une règle ou une politique pour permettre à tout le monde d'avoir accès à la bibliothèque, de ne pas exclure les personnes en situation d'itinérance, mais d'imposer une espèce de test de l'odeur en précisant qu'évidemment, ce n'est que pour des situations extrêmes. Ça a fait rigoler, ça a fait jaser, ça a été critiqué, mais ça témoigne d'un phénomène. C'est que là, on a un problème qui déborde sur d'autres facettes et des intervenants qui sont pas nécessairement dédiés à gérer cette question-là, qui en sont saisis. Fait que les tribunaux, les juges sont bien intentionnés quand ils arrivent en disant on va développer une petite facette, on va mettre notre grain de sel dans le débat. Mais si ça produit l'effet que je crains, c'est-à-dire de dire ben là, on s'en mêlera plus parce qu'on va se faire poursuivre dans les tribunaux, et donc on développe pas trop de place dans les refuges, puis on démantèle pas, puis on fait juste laisser aller pour pas avoir de problème. Mais ça, on pourrait dire, si c'est ça qui s'est produit, la jurisprudence dont on parle, je suis pas sûr que c'est pour le mieux. Les juges sont conscients.
On pourrait dire l'enfer est pavé de bonnes intentions et la jurisprudence aussi.
Absolument. Et les juges eux-mêmes, là, notamment Chantal Mas et le juge Nollet, ils ont des petits passages, hein, pour rappeler c'est pas nécessairement à eux, mais plutôt aux élus puis aux électeurs de gérer le problème. On veut pas tomber dans un gouvernement des juges. On sait que les juges, c'est pas les mieux placés pour gérer des budgets. Mais malgré tout, face à la situation in extremis, on nous demande une ordonnance. Est-ce qu'on peut démanteler?
Ils peuvent pas s'en empêcher, Patrick. Ils peuvent pas s'en empêcher.
Ils peuvent pas. C'est plus fort.
C'est le juge de notre époque qui est pas capable de se limiter. Hein, c'est ça.
Exactement.
Très bien, ben merci beaucoup pour cette chronique constitutionnelle et itinérante. C'était vraiment intéressant. Merci, Patrick.
Merci, Antoine.
Je rappelle que Patrick Taillon est notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, où on le joignait aujourd'hui.
Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.